Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 16h à Paris et Berlin, 15h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous. En Serbie, la colère de la population ne faiblit pas. Après l'effondrement d'un auvent qui a fait 15 morts le 1er novembre dans une gare du nord du pays, depuis les manifestations se poursuivent et un rassemblement a lieu en ce moment à Belgrade pour dénoncer la corruption dans le pays. Nous sommes sur place dans un instant. Les autorités allemandes dénoncent une enquête après l'attaque à la voiture Bélier sur un marché de Noël vendredi soir. Une enquête pour voir si des erreurs auraient été commises dans la prévention de cette attaque. Des alertes auraient été émises sur le principal suspect. Au Proche-Orient, la Jordanie envoie un convoi d'aide humanitaire en Syrie, un moyen pour Amman de nouer de bonnes relations avec le nouveau pouvoir en place à Damas. Le président serbe a affirmé hier qu'il ne reculerait pas face aux manifestations qui durent depuis plus d'un mois dans le pays. Manifestations qui font suite à l'effondrement d'un auvent dans une gare qui a tué 15 personnes dans le nord du pays. L'édifice avait pourtant subi d'importants travaux de rénovation. Depuis, la colère contre la corruption ne cesse de monter. Après plusieurs semaines de blocage des principales facultés du pays, les agriculteurs rejoignent le mouvement. Une manifestation se tient en ce moment à Belgrade, la capitale serbe où vous vous trouvez. Pour RFI, Laurent Rouy. Laurent, la manifestation est sur le point de débuter. Quelle est l'ambiance sur place? Il y a déjà des incidents à signaler?
Alors, au niveau des incidents, il y en a eu plus tôt dans la journée, puisque deux des principaux leaders des agriculteurs paysans ont été arrêtés par la police dès leur arrivée à Belgrade et un tracteur a été saisi par la justice. Les deux hommes, semble-t-il, auraient été libérés peu après, mais leurs véhicules ont été emmenés par les services de la voirie. Et leur arrestation a été assez mouvementée puisque de nombreuses personnes filmaient les policiers qui, en tenue anti-émeute, ont dû emmener les deux arrêtés qui ont fait preuve de tout ce qu'ils ont pu de résistance passive.
Et en ce moment, donc, cette manifestation va débuter à Belgrade.
Alors effectivement, donc je ne suis pas encore sur la place Slavia qui est le point de rencontre, mais déjà depuis presque un kilomètre, les rues sont complètement bloquées par les marcheurs qui en silence se rendent vers cette place très centrale de Belgrade. Il y a une atmosphère de recueillement. N'oublions pas qu'il s'agit aussi de commémorer la mémoire des 15 victimes de l'effondrement du auvent de la gare de Novi Sad. C'est d'ailleurs prévu dès le début de la manifestation, 15 minutes de silence. En tout cas, de très 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 nombreux piétons manifestants se rassemblent actuellement. Je marche avec eux dans les rues de Belgrade, direction la place Slavia. Il y a énormément de monde, la circulation est complètement coupée. Pour l'instant, pas de police visible.
Laurent Rouy, en direct de la capitale serbe. La Russie revendique la capture de deux villages dans l'est de l'Ukraine, le premier dans la région de Kharkiv, le second dans la région de Donetsk, que les forces russes contrôlent presque entièrement, selon le ministère russe de la Défense. La Russie qui a accéléré la marche en avant dans l'est de l'Ukraine ces derniers mois, cherchant à gagner le plus de terrain possible avant l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. Le républicain a promis de mettre rapidement fin à ce conflit qui dure depuis près de 3 ans, sans toutefois faire de propositions concrètes pour un accord de paix. Le président américain élu qui s'en est pris au Panama, dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump estime que les tarifs pratiqués pour pouvoir naviguer via ce canal, le canal du Panama, sont trop élevés. Le milliardaire menace de demander au Panama de rendre le canal aux États-Unis si les droits de passage ne baissent pas, même si juridiquement, il faut le rappeler, les États-Unis n'ont aucun droit à faire valoir sur ce canal qui relie l'Atlantique au Pacifique. En Allemagne, le gouvernement Scholz sous pression après l'attaque à la voiture Bélier sur un marché de Noël. 5 personnes sont mortes, 4 femmes et un petit garçon de 9 ans. 200 personnes ont aussi été blessées. Le principal suspect, un médecin saoudien de 50 ans, avait obtenu l'asile sur le sol allemand. Il y a plusieurs années, il a été présenté à un juge hier soir, placé en détention provisoire. Mais la polémique enfle au vu de son comportement erratique signalé depuis plusieurs années aux autorités allemandes, Vincent Souriau.
D'après le magazine d'investigation Der Spiegel, Berlin a reçu pas moins de 3 signalements au sujet de Taleb Jawad al-Abdoumohsen. Des informations livrées par l'Arabie Saoudite aux services de sécurité allemands en 2023 et 2024. Ce sont ces messages postés sur les réseaux sociaux qui ont déclenché l'alerte. Il y écrivait que l'Allemagne ne traitait pas bien les réfugiés saoudiens et qu'elle devrait en payer le prix. Ces renseignements sont parvenus jusqu'aux autorités régionales de Saxe-Anhalt où le drame s'est produit. Mais à l'époque, lorsque le suspect a été placé sous surveillance, la police n'a décelé aucune menace concrète. Depuis mars 2020, ce psychiatre saoudien travaillait auprès des toxicomanes placés en détention. Mais il est aussi décrit comme un militant de la cause des femmes saoudiennes, un homme qui avait tourné le dos à l'islam et qui craignait jusqu'à la paranoïa, l'islamisation de l'Allemagne. Il aurait ainsi souhaité la mort de l'ancienne chancelière Angela Merkel au motif qu'elle aurait admis les mauvais réfugiés dans son pays.
Et les autorités allemandes annoncent une enquête pour voir si des erreurs ont été commises, des erreurs dans la chaîne qui auraient pu permettre d'empêcher cette attaque meurtrière. En Syrie, les nouvelles autorités multiplient les rencontres avec les diplomates étrangers. Aujourd'hui, le nouvel homme fort du pays, Abu Mohamed al-Jolani, a rencontré le chef de la diplomatie turque. Il a aussi reçu aujourd'hui à Damas le chef druze Walid Jumblat, le chef druze libanais. Une première rencontre avec un dirigeant de ce pays voisin qui a souffert pendant des décennies de l'ingérence du clan Assad dans les affaires internes du Liban et auxquelles sont imputés de multiples assassinats. La Syrie n'aura plus d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté de son voisin. Voilà ce qu'a assuré ce dimanche Abu Mohamed al-Jolani. Et puis, la situation humanitaire en Syrie, elle, reste toujours très précaire, surtout avec le retour des réfugiés syriens qui s'étaient réfugiés dans les pays voisins. La Jordanie a accueilli de nombreux Syriens sur son sol, alors elle a décidé d'envoyer un convoi d'aide humanitaire, un geste qui marque un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Reportage de notre correspondant Mohamed Erami.
La Jordanie a envoyé une caravane de 10 camions, près de 200 tonnes d'aide humanitaire au Croissant Rouge syrien pour soutenir le nouveau gouvernement après la chute de Bachar al-Assad. Cette première livraison marque le début d'une série incluant des fournitures médicales, selon Hussein al-Shibli, humanitaire de la Fondation Hachemite.
Cette première caravane sera suivie d'autres qui seront distribuées dans plusieurs régions. Nous commencerons dès maintenant à ouvrir la porte aux dons et à l'aide du peuple jordanien pour les frères et sœurs en Syrie. Et cela se poursuivra jusqu'à ce que ce pays retrouve sa stabilité.
Les aides jordaniennes, selon l'expert économique jordanien Obeida Rabhi, contribueront à soutenir les familles touchées par le conflit armé qui dure depuis plus de 13 ans et permettront aux déplacés de recevoir de la nourriture dans un contexte où les organisations humanitaires étaient empêchées de travailler en Syrie jusqu'à présent.
Les aides sont adaptées aux besoins des familles syriennes touchées, notamment car des milliers de foyers vivent dans des conditions particulièrement difficiles en raison des conflits militaires et politiques, surtout dans les régions qui étaient hors du contrôle du précédent régime syrien.
La Jordanie cherche à établir de bonnes relations avec le nouveau régime syrien, d'autant plus que la Syrie représente un axe économique stratégique pour la Jordanie. Grâce à la frontière commune, les marchandises peuvent désormais être exportées vers la Syrie, le Liban, la Turquie et même l'Europe. Mohamed Erami, Amman, RFI.
RFI 16h08 à Paris, PFAS, entrisme ou encore paralympique. Voilà les mots les plus recherchés cette année sur le dictionnaire en ligne Le Robert. Des mots souvent en rapport avec l'actualité, Sophie Torlotin.
Sur la première marche du podium, on trouve un mot venu de l'antiquité grecque, hubris, H-U-B-R-I-S. Ce terme qui désigne le sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et donc à sa perte, est dernièrement souvent utilisé dans les médias. Les internautes en ont recherché le sens au moment de la dissolution, car les éditorialistes politiques l'utilisent beaucoup.
Les proches d'Emmanuel Macron décrivent un homme assez susceptible et rancunier, qui n'aime pas qu'on lui dise ses vérités, comme l'avait fait Gérard Collomb en le mettant en garde contre l'hubris du pouvoir, le manque d'humilité.
Les internautes francophones ont également consulté le mot « beeper » suite à l'explosion de ces appareils des membres du Hezbollah en septembre dernier, ou bien encore les termes « féminicide »,« cloporte » ou « vérole », mais aussi un mot rare, « nyctalope », au cœur d'une polémique scolaire, comme le relate l'humoriste Tanguy Pastureau.
Un enfant HP âgé de 5 ans a utilisé le mot nyctalope devant sa maîtresse qui a cru que c'était une insulte. Alors que le gosse assistait à un cours sur les animaux qui voient la nuit, comme le chat.
De l'intérêt, même lorsque l'on est enseignant, de toujours avoir le réflexe de consulter un dictionnaire.
Sophie Torlotin du service culture de RFI.